Salut tout le monde, bon samedi matin. Bienvenue à cette première édition de Une tasse de thé avec Max Lalonde. Je m'appelle Max Lalonde, porte-parole ambassadeur de la campagne Sortez Golfer. Maniaque de golf, vous m'avez sûrement déjà vu sur les médias sociaux. C'est un grand plaisir de venir faire ça avec vous autres ce matin, de venir vous jaser de golf ce matin. Salutations à déjà près d'une centaine de personnes de branchées dans un beau setup de golf, enfin avec un peu de verre en arrière. C'est le fun de pouvoir venir faire ça, de venir pouvoir justement discuter de golf avec vous autres. Je vais vous présenter mes invités dans les prochaines minutes. Puis je vous invite à être actifs, à partager cette vidéo-là sur Facebook, à le partager sur Instagram et à nous aider à propager la bonne nouvelle de ce nouveau show-là qui va avoir lieu les samedis et les dimanches matin pour les prochaines semaines. Il y a déjà plein de monde de branchés. On est en direct sur la page des Expo Golf, sur la page de Sortez Golfer, sur la page de Golf Québec, mais évidemment, plus vous partagez, plus la bonne nouvelle va se répandre. J'espère que ça va bien. J'espère que vous et vos familles, vous êtes en sécurité. J'espère que tout le monde se porte bien. J'espère que vous avez pratiqué votre élan parce que oui, il y aura une saison de golf 2020. Je sais que c'est une période d'incertitude. Je sais que c'est différent comme ce qu'on vit présentement comme période. On n'est pas habitué. L'être humain a été frappé fort et ça, c'est partout sur la planète. De un, on veut vous dire merci. Merci d'avoir été patient. Merci d'avoir parlé de golf, d'avoir partagé sur les médias sociaux un peu partout vos setups dans la cour, dans le garage, dans votre sous-sol pour vous entraîner. Merci d'avoir gardé la discussion vivante. Une tasse de thé, c'est une production BAM Media, mais c'est une présentation et une initiative, la table de concertation de l'industrie du golf du Québec. La table de concertation de l'industrie du golf du Québec, c'est 5 grandes associations de décideurs dans le golf qui se rencontrent très, très, très souvent pour prendre les meilleures décisions possibles pour l'industrie. Sachant très bien que la période qu'on vit présentement est bien différente, ils avaient dans l'idée de créer quelque chose pour générer une discussion. Qu'on parle de golf, créer du contenu, alors voici une tasse de thé et j'ai ma tasse de thé, en part de ça, avec Max Lalonde. On va faire ça souvent. C'est le fun de pouvoir compter sur votre présence et je veux remercier les gens de la table de concertation de l'industrie du golf du Québec qui ont pris le temps et l'initiative de mettre ça sur pied et qui, je vous l'assure, travaillent d'arrache-pied, mais d'arrache-pied pour vous fournir une saison de golf 2020 mémorable. Il y en aura une. On va vous donner plus d'infos. Dès qu'on a des infos, on vous les partage. Mais évidemment, vous le savez, on a des règles sanitaires, sécuritaires à respecter. On a un plan à suivre et tout le monde travaille en ce sens. Je veux saluer, avant de commencer puis avant de vous présenter nos invités, les surintendants du Québec et les employés de tous les terrains de golf de la province qui travaillent à équipe réduite, mais qui travaillent d'arrache-pied pour préparer le terrain, pour qu'il soit vert, pour qu'il soit beau, pour que ça sente le gazon frais coupé, que les verts soient beaux, qu'on puisse tous réussir nos potes de 25 pieds quand la saison va commencer. Je veux les saluer parce que ce sont de longues journées, ce sont de petites équipes et ils travaillent très, très fort. Pour ça, je vous dis merci. Je veux saluer les pros du Québec, mes amis les pros du Québec, et je les nommerai pas tous parce qu'il y en a tellement qui ont généré du contenu sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram, qui ont créé vraiment quelque chose d'intéressant. Je pense à Steve Foisy qui a fait son mouvement Swing at Home. Je pense à Gabriel Voyer qui a partagé tellement plein de trucs. Je pense à Jérôme Blais qui fait des capsules tellement intéressantes. Il y en a plein. Alors, merci aux professionnels du Québec d'avoir fait ça. Maintenant que vous êtes sur Facebook, que vous êtes en commentaire, je vais aller voir qui est là. Il y a déjà plein de monde. Salutations à Jacques Aymond. Merci, Jacques, d'être là. Salutations à Simon Marette. Simon, merci d'être branché. Monique Charbonneau qui dit « On a très hâte de jouer ». Ben Monique, absolument, on a hâte de jouer nous aussi. Il y a Dominique Racine qui est là. Bon matin, salut Dom. Dom qui est évidemment de la PGA du Québec. Larry Roy. Sarah Landry qui dit « Allô les pros ». Anne Rogerson qui dit « Go Max Lalonde ». Salut Anne, merci d'être là. C'est déjà plein. Salutations à David Skitt. Alors, ça, c'était pour les pros. Merci. À chaque jour, il y aura une question du jour. À chaque jour, il y aura chaque émission. Je vais vous poser une question. Je vais vous demander de répondre en commentaire. Et avant d'aller rejoindre Julien et Johan dans les prochaines secondes, je vous lance la question d'aujourd'hui et je vous invite à répondre en commentaire. On parle de votre game de golf. On parle de vos skills de golf. Je vous demande aujourd'hui pour la question du jour. Je vous donne le choix. Tous vos coups de départ dans l'allée. peu importe la condition, peu importe, il vente, il mouille, il fait pas beau, peu importe le terrain, peu importe de où vous frappez, est-ce que vous prenez tous vos coups de départ dans l'allée ou est-ce que vous prenez, vous réussissez chacun de vos roulés en dedans de 8 pieds? Qu'est-ce que vous prenez? Est-ce que vous prenez vos coups de départ ou est-ce que vous prenez vos roulés? Je veux savoir, répondez en commentaire. C'est la question du jour pour aujourd'hui. On va aller tout de suite rejoindre nos invités. Je vous présente le premier, Lord PD. On le rejoint en direct du Canada, Julien Trudeau. Là, salut, Julien.
Salut, Max, ça va?
Ça va bien, toi?
Ben ouais, une petite tasse de café avec toi, mon homme.
Une petite tasse de café, moi, c'est ma tasse de thé.
OK.
Tu nous parles en direct du Kansas, c'est là où tu résides depuis maintenant 2 ans?
Kentucky, ouais.
Kentucky, j'ai dit Kansas, c'est Kentucky. Ouais. Ouais, depuis 2 ans?
Pas rien du poulet frit ici au Kentucky, mon homme, c'est beau ici, là.
Ah non, j'imagine, ça doit être vraiment, vraiment très, très beau. Julien, pour les gens qui t'ont suivi, tu as joué au golf professionnel pendant plusieurs années. On t'a vu sur le Corn Ferry un peu, mais depuis quelques années, t'es caddie et maintenant t'es caddie du golfeur professionnel Adam Long.
C'est ça, ouais. J'ai commencé en 2012 pour Graham Dallet. Et puis, quand il s'est blessé, Graham, ben là, j'ai rebondi un peu ici puis là. Puis là, ça fait à peu près un an que je suis avec Adam Long. Là.
Très, très cool. Pendant que notre deuxième invité se joint à la discussion, mesdames et messieurs, vous le reconnaissez, vous le voyez, RDS, à l'analyse d'un certain grand tournoi du golf professionnel, nous parle en direct de la Ville des Vents ce matin, live from Chicago, Illinois. Mesdames et messieurs, Johan Benson, salut Johan.
Bon matin, messieurs. Désolé pour les pépins techniques.
Ah, écoute, ça arrive, hein. C'est jamais parfait,
les connexions. La magie du web, hein.
Ouais, on se parle de 3 endroits différents, fait que c'est très cool. Comment tu vas, Johan?
En pleine forme, je peux pas me plaindre.
Johan, professionnel, Laval-sur-le-Lac, caddie sur le tour, qui a été caddie à temps plein, qui a été caddie à temps partiel. C'était cool de vous recevoir aujourd'hui parce que ça va être l'édition Caddie Shack et on va parler un peu du rôle du caddie dans le golf professionnel et dans le golf en général. C'est le fun de vous avoir, c'est le fun de pouvoir faire ça avec vous autres. Mais les gars, j'ai le goût de commencer par vous poser la question que j'ai posée à nos auditeurs de ce matin. Je vous donne le choix dans votre jeu de golf, dans votre game de golf. Est-ce que vous prenez chacun de vos coups de départ dans l'allée ou est-ce que vous réussissez chacun de vos potes en dedans de 8 pieds? Lequel vous prenez?
Moi, je prendrais les coups roulés parce que c'est sûr que c'est quasiment la moitié du jeu, là, parce que c'est quasiment 50% des coups. Donc, si tu peux réaliser tous tes coups de 8 pieds, là, disons que ça l'enlève pas mal de coups à ta ronde. Là.
Absolument. Julien, toi?
Benson, il manque pas beaucoup de fairway anyway, fait que il va pas les potes. Hein, fait que moi, si je vais prendre les coups roulés, c'est sûr que... écoute, si je la frappe dans le rough, ben on se débrouillera, mais je pense que les potes, c'est plus important. Hein.
Absolument. Il y a salutations à Steve Foisy qui est pro au Mirage, qui dit concours de mollet de nos amis Caddy, please. On va le régler tout de suite. Qui a les plus gros mollets d'entre vous deux? Là?
Julien. et les plus poilus aussi.
C'est ça.
Les plus musclés et les plus poilus. C'est ça. Hey les gars, c'est cool que vous soyez là. Évidemment, cette situation-là a frappé tout le monde un peu. Ça a retardé la saison de la PGA. Julien, tu le vis. Ça veut dire qu'Adam est comme tout le monde. Il attend que la saison reparte pour reprendre le collier. Parlez-moi un peu de la fébrilité alentour de vous autres. Johan, peut-être du côté des membres à Laval, des gens que tu côtoies dans l'industrie, tu dois sentir cette fébrilité-là là, qu'on a hâte d'embarquer sur le terrain et d'aller jouer?
Absolument, surtout avec le beau temps là qu'on peut voir derrière toi, là, les gens sont très hâtifs. Le monde veut sortir, là, tu sais, là, ça fait un mois là que les gens sont en isolement, donc les gens veulent sortir, les gens veulent pratiquer. Et ce qui arrive aussi, c'est lorsqu'on voit les photos sur Facebook justement là d'un stationnement de Walmart parce qu'il y a 150 autos et puis il y a 2 personnes par trou sur un parcours de golf, donc c'est pratiquement plus prudent d'être sur un parcours de golf qu'aller faire son épicerie, par exemple. Donc, c'est un peu là où les gens là, comprennent le bon sens. Et puis, je pense que il y a tellement de choses qui se rapatrient à chaque parcours de golf. On, On parle de nombreux employés. On parle, c'est une grosse business au Québec. Donc, le plus tôt que le gouvernement va nous offrir d'ouvrir, ben on va le prendre, c'est certain.
Absolument. Puis Julien, du côté des golfeurs professionnels, j'imagine que vous êtes en communication, vous avez hâte. Là. Vous avez hâte que la fraternité reparte aussi.
Oui, c'est sûr. Mais c'est sûr que aussi les gars veulent que tout soit, tu sais, sécuritaire. Puis je sais pas quand on va retourner, je sais pas s'ils vont tester les caddies, puis les pros, puis les gens de sport là, qui ouais. avec le tour. Mais ouais, c'est ça. Fait que les gars, tu sais, il y en a qui habitent en différents endroits. Les terrains sont ouverts là, aux États, surtout les terrains privés. Donc, j'imagine les pros sont surtout au terrain privé, mais c'est différent. C'est pas comme quand c'était normal ou whatever. Là,
je peux dire quelque chose, Max, parce que juste pour mettre. S'ils testent les KD, je peux dire qu'ils vont trouver des choses bien pires que le COVID-19.
Hey, mais parlons-en justement des KD. Tu sais, c'est un rôle qui souvent est sous-estimé. Je suis convaincu que si on prend bien du monde et on leur demande, selon toi, qu'est-ce que ça fait un caddie, puis ça va dire ça traîne le sac du professionnel, mais c'est beaucoup plus que ça. Vous êtes le bras droit du golfeur et de la golfeuse. Vous l'aidez à prendre les bonnes décisions. Il y a un travail en amont, avant le tournoi, dans la préparation, dans les yardage books, dans tout ça. Qu'est-ce qui vous, à la base, là, avant de commencer à devenir caddie, qu'est-ce qui vous intéressait le plus de cette position-là dans l'industrie du golf, puis qu'est-ce qui venait vous chercher ou qui vous passionnait dans cette job-là de devenir caddie?
Ben, Julien, vas-y, t'as plus d'expérience que moi, là.
Ben, mais pour moi, tu sais, c'était juste que ça me tenait dans le game un peu, tu sais. Okay. C'est pas différent, t'as pas la même pression, mais tu sais, quand t'as une chance de gagner le tournoi, ou puis moi, j'ai jamais gagné le tournoi en tant que caddie, là, mais on est passé proche, mais tu sais, c'est juste le feeling, là, tu sais, le dimanche, quand tu as une chance de gagner, puis tenir ton gars dans le game, puis essayer de le garder confiant, puis tout, là, c'est un feeling que tu peux pas répliquer, là. Ça fait que c'est le fun.
Moi, de mon côté, j'ai jamais aspiré à devenir cadet. C'est la première fois que j'ai cadet. C'était l'Omnium canadien en 2012. C'est Adam Hadwin qui m'a demandé de le cadder. Ensuite, ça a été Russell Knox, qui est un autre bon ami, qui m'a demandé de le cadder. Et ensuite, ça a été Mark Hubbard, même chose, un bon ami qui m'a demandé de le cadder. Et puis, Julien, lui, il a été plus chanceux dans sa carrière d'avoir des golfeurs, comment je dirais, un peu plus matures.
Ah ouais?
Disons qu'on peut s'étendre assez longtemps sur la relation que Marc et moi, on a eue. Là, Julien, il en a vécu des bonnes aussi.
Mais, tu sais, puis on s'en est parlé un peu au téléphone hier, puis on va rentrer là-dedans, mais c'est parce qu'on a tellement l'image que, tu sais, c'est un sport de gentleman, c'est un sport de très sérieux. Puis, tu sais, c'est drôle, il y a une question qui est rentrée par commentaire, je vais aller la rechercher. Là. Il dit, les joueurs de la PGS qui prennent une bière au 19e trou après leur ronde en tournoi, est-ce que vous vivez ça? Parce que nous autres, la conception qu'on a d'un tournoi de golf, c'est quand les caméras se ferment à la télé, mais après, est-ce que vous partez comme au restaurant à gang, vous allez manger, puis vous vous préparez pour le lendemain? Comment ça se passe?
Ben vas-y, je viens.
Ouais, ben, comme exemple, là, Graham, oui, il prend une bière, mais j'ai jamais vu prendre plus que deux bières, je pense. Surtout comme une nuit d'école, là, quand il y a un travail. Mais le dimanche soir, après un tournoi ou whatever, ça, c'est une histoire différente. Là. Des fois, la pédale était à full pin. Là, puis...
Ah non, puis, c'est sûr.
Mais ouais. Après la ronde, les gars, ils boivent pas vraiment au terrain. Tu sais, peut-être qu'ils vont sortir, aller souper, puis prendre une bière ou deux, mais on voit pas vraiment les gars faire la brosse là, tu sais, pendant le tournoi. Fait.
Non, même chose pour moi. Ouais, je peux pas. Durant la semaine, Russell boit pas. Adam, c'est pas le gars le plus volubile non plus. C'est pas le gars le plus excentrique. Mark, lui, ça dépendait plus de comment il jouait. Là.
Mais ben, parlons-en de Mike Hubbard. Tu, Tu m'as raconté une anecdote hier, puis je veux que tu la racontes. Tu as fait un genre de pari avec lui sur un roulé, puis ça impliquait des fireballs, je sais pas trop, là.
Ben, Julien, t'es là. Marc et moi, Marc, on est comme des frères, mais tu sais, des petits frères qui se battent tout le temps. Puis, Marc, ce qui arrive à Hubbard, c'est que non seulement des fois, il était bébé sur le terrain, mais c'est les choses à l'extérieur du terrain. Tu sais, des niaiseries, là, de se présenter au champ de pratique en running shoe ou, tu sais, il manque des bâtons dans le sac. Puis Julien peut te dire, à chaque semaine, j'avais quelque chose de différent. Tu sais, il a oublié de mettre des billets de côté pour sa mère. Juste des niaiseries de même. Parce que je m'en souviens, on jouait avec Graham et Julien, et puis c'était le 8e trou à Reno, puis c'était le vendredi matin. Donc, on a joué jeudi après-midi, ronde 2 vendredi matin, puis Marc, là, la première journée, il s'est comporté comme un bébé, il pitchait des clubs. En tout cas, mais c'est drôle. Moi, puis ça, c'est de ma faute. Moi, je l'encourageais quasiment parce que je trouvais ça tellement drôle. Moi, un bon lancer de bâton, là, je trouve ça extraordinaire. Je suis pas un puriste de la game pantoute, là. Quelqu'un qui pitche ses clubs, je trouve ça extraordinaire. Et puis, on était sur le 8e tee, puis là, j'ai dit à Marc, là, je suis plus capable. Parce qu'on était à l'extérieur de la côte, j'ai dit, fais-moi 8 birdies d'ici à la fin. Là, on était sur le vert du 8e trou. J'ai dit, fais-moi 8 birdies d'ici à la fin, puis je vais caler une bouteille de fireball, puis sure enough, c'est ça qu'il a fait.
Il a fait 8 birdies, puis ça t'a coûté une bouteille de fireball. Mais tu sais, c'est drôle ça, tu parles de lancer des bâtons puis d'être là. Puis je vais mettre la question de Hans Schultz à l'écran tout de suite parce que je trouve ça vraiment intéressant. C'est quoi l'impact psychologique du caddie sur le joueur? Parce que oui, vous êtes des conseillers, oui, vous traînez le sac, oui, vous l'aidez dans ses décisions, mais tu sais, le golf étant ce que c'est, moi je le dis tout le temps, c'est mon sport préféré, puis c'est le sport que j'haïs le plus en même temps, puis ça peut arriver les deux dans la même partie. Tu peux commencer, ça va bien. Tu peux finir, ça va mal.
Tous les golfeurs sont bipolaires. Hein?
Ah, absolument. Mais c'est quoi la latitude qu'un caddie a quand un golfeur se met à dégringoler, mettons, dans une partie pour être là pour... Tu sais, j'imagine que ça dépend de la relation que vous avez, du body-body que vous avez pour être capable de dire « Hey, calme-toi, relax ». Comment ça se passe entre vous et votre golfeur?
Ouais, c'est drôle parce que Johan et moi, on a été golfeur, tu sais, on a joué professionnel, puis tout ça. Ouais. Fait que je pense que c'est facile pour nous, plus facile pour nous peut-être de comprendre quand les gars ils font des mauvais shots. Là. Tu sais, c'est le golf. Fait que moi, je me fâcherai jamais contre mon pro s'il frappe une mauvaise shot ou s'il fait un trois potes. Ceci étant dit, ça devient psychologique, l'effet. Là. C'est sûr que quand Adam est entre un 6, un fer 6 puis un fer 7, ben c'est sûr que je peux l'aider, mais c'est l'effet de confiance.
Ouais.
Oui, c'est un 7, c'est pas un 6, puis être 100% confiant, c'est là je pense que ça devient important, le caddie surtout. Là.
Puis ouais. Moi, Marc, je le connaissais très bien. Évidemment, on est tellement proches. Quand Marc rate un coup, la dernière chose qu'il a besoin, c'est une tape ses fesses puis un pep talk. Laisse-le ventiler. Tu sais, là, tu peux pas être le gars qui va être dans son oreille puis dire, hey, la prochaine shot, on va l'avoir, là. Et tu vas recevoir son point dans ta face.
Ça ferait un bon moment de TV, par exemple. Mais je comprends, puis j'imagine que ça dépend de la psychologie du golfeur, puis comment lui fonctionne sur un terrain. Et, tu sais, puis là, Julien, t'es avec Adam Long. Est-ce que, avant de travailler avec un golfeur, allez-vous souper pour voir si ça match vos personnalités? Passez-vous une entrevue? Comment ça fonctionne? Comment t'en viens à faire? Tu sais, comment, mettons, Adam... « Hey, Julien, veux-tu travailler avec moi? Russell Knox? Hey, Juan, veux-tu travailler avec moi? » Comment les relations se créent? Parce qu'il n'y a pas un indeed là, de job offers de caddie. Là. Comment ça fonctionne pour se ramasser avec un golfeur professionnel?
Right. Ben, ça aide que Juan et moi, on a joué beaucoup là, en tant que pro. Fait que je pense qu'on connaît assez de joueurs. Donc ça aide. C'est ça comme si toi, Max, t'arrivais au... stationnement au Colonial, là, le premier tournoi, c'est le 8 juin, ben, je te souhaite une bonne chance, man, mais tu vas avoir de la misère à trouver un sac, tu sais, mais c'est, ça, ça aide de connaître des gars. Donc, tu sais, Adam, lui, il allait congédier son caddie. Donc, moi, je connaissais son pro, son coach.
Ouais.
Donc, lui, il m'a texté, il dit, tu veux-tu travailler pour Adam? Je dis, absolument, 100%, oui, monsieur. Donc, tu sais, c'est juste du network un peu, là, tu sais, comme...
Ouais.
Que ça aide. Mais, tu sais, le fait que j'ai travaillé pour Graham pendant 6 ans, tu sais, ça nuit pas, là, tu sais.
Non, c'est sûr.
Le fait que j'ai travaillé pour Mark pendant 5 ans, ça me nuit.
Ça... Mais tu sais, parce qu'on a tous entendu les histoires, mettons, de Tiger Woods qui se pogne avec Steve. Puis ça peut arriver des chicanes golfeurs-caddy et ça peut miner la relation. Puis Juan, tu m'as dit quoi de bien intéressant? Tu m'as dit, c'est une job dans laquelle, si pour X raison, un week-end, un mariage, il faut que tu prennes off. Puis ce week-end-là, le golfeur avec qui tu travailles, il gagne avec un autre caddy. Toi, tu viens stresser parce que tu n'es pas convaincu que tu vas avoir une job quand tu vas retourner. C'est quand même fou la pression psychologique puis le poids que le caddy a sur les épaules de performer, même si c'est pas lui qui frappe la balle.
Ben, c'est une job très ingrate parce que tu peux te faire congédier pour aucune raison valable. Moi, ce qui est le fun dans ma position maintenant avec mon rôle à Laval, mon rôle à RDS, c'est que j'ai été appelé par des amis cadets à remplacer, par exemple, Adam Hadwin l'hiver dernier. Son cadet m'a demandé de cadet pour Adam pour quelques semaines parce que j'ai une carrière autre que le cadet. Donc, tu sais, si Julien, par exemple, demain matin ou la semaine prochaine, il doit s'absenter, ben moi, je peux cadet pour Adam Long. Puis Julien, il a pas peur de perdre sa job. Tu sais,
ouais, je comprends.
Parce qu'à moins que tu cadres pour un top 20 ou un top 30 mondial, il y a quand même une lutte qui se fait entre les cadets pour... et puis pas Julien personnellement, parce que c'est tellement un bon gars, là, mais il y a d'autres cadets qui tu sais, il aurait pas peur de te voler ta job, là, tu sais, parce qu'ils en veulent une, eux autres aussi. Donc, il y a une camaraderie, surtout sur le PGA Tour. Les gars sont tous pas mal... mal ami, c'est quand tu descends là, sur le Corn Ferry Tour, tu sais, les bons joueurs que tu sais qui vont graduer sur le circuit de la PGA, c'est surtout là que les poignards, ils sortent.
Puis Julien, comment tu le vis, toi? Est-ce que tu sens beaucoup de camaraderie quand même dans cette industrie-là?
Oui, mais Johan, il a raison, absolument, mais ouais, il est tellement un bon brotherhood, là, c'est incroyable, même juste... pendant cette période-là, le COVID, tu sais, les gars, on se texte, puis on essaie de planifier un peu déjà tu sais, la cédule qui ont sorti la semaine passée ou il y a 2 semaines. Là. Donc, tu sais, on essaie de se trouver des colocs déjà pour certains tournois, puis les gars essaient de booker des hôtels, puis on se parle, puis en tout cas...
Ah, parce que vous roomez ensemble!
Ouais.
Sur la route, comment ça marche dans le fond? Les pros, eux, ils ont bon chambre d'hôtel avec la famille, les affaires-là, mais les caddies, vous autres, vous êtes comme un peu comme une équipe de hockey, là, lui room avec lui, un tel room avec un tel. Puis...
Moi, j'ai été très chanceux durant ma carrière de caddie. Je me suis forgé des amitiés, non seulement avec des caddies, mais souvent avec des partenaires avec qui, parce que ben, Julien va te dire, j'ai de la jasette pas mal. Là. Fait que durant les pro-am, souvent... juste en jasant avec les membres qui jouaient dans le programme, mais souvent, ces gens-là m'ont invité à rester dans leur demeure. Donc, je peux te dire, toute la côte ouest, là, Riviera, Pebble Beach, Phoenix, je restais toujours dans des maisons privées. Et puis j'ai d'autres cadets. Là, et puis, j'ai resté avec Marc souvent, surtout là, l'outre-mer, là, les tournois au Mexique, à Puerto Rico, en Malaisie, tout ça, mais je restais souvent, quand son épouse voyage pas, souvent, ben Marc et moi, on restait ensemble. Là.
Très cool. La question est bonne, c'est Gaétan Grimard qui la pose. C'est-tu vrai que votre salaire peut ressembler à du 10% de la bourse du joueur? Comment ça fonctionne, à part si tu travailles pour Matt Kuchar?
Moi, j'ai toujours eu une entente avec Marc. Je commençais l'année, donc tu as un salaire de base par semaine. Okay. Moi, je commençais à 1500 par semaine sur le PGA Tour, bien sûr. Et puis, à toutes les fois que Mark faisait 100 000 de gains, ben, je faisais 100 $ de plus de la semaine, jusqu'à un maximum là, de, je te dirais, 2000 par semaine. Et puis, oui, 10% pour une victoire. Et puis, après ça, je faisais 8% lorsqu'il faisait la coupure. Mark, c'est un gars très généreux, mais aussi... J'en faisais beaucoup pour Marc. J'en fais encore beaucoup pour Marc. Tu sais, j'étais pratiquement son agent. J'étais pratiquement sa gardienne. Même que ça m'est arrivé une anecdote. Il y a une fois, j'étais tellement écœuré de Marc. J'étais allé voir le système de gardiennage sur le PGA Tour. Parce que quand t'as des enfants sur le PGA Tour, il y a un système de gardiennage. Qui, tu peux laisser ton enfant là pour...
Et moi, il y a des outardes qui passent en mariage sur la terrasse au Versailles.
Fait que tu peux laisser ton enfant pour 5 heures. Tu sais, l'épouse peut laisser l'enfant avec le système de gardiennage pour 5 heures pour aller voir son mari. Puis moi, j'étais même allé et j'avais rempli le formulaire comme moi, j'étais le père puis Marc était l'enfant. Fait que là, ils m'ont appelé pour dire si c'était sérieux. Je dis, je suis plus capable. Prenez-les pour 5 heures et moi, je suis capable.
Ah, c'est drôle, ça. J'ai une super bonne question de Steve Foisy, qui est professionnel au Mirage. Est-ce que certains coachs sont réfractaires à votre présence sur le sac de leurs joueurs, vu vos multiples connaissances tant au niveau de la stratégie puis de la technique?
Oui, mais c'est important de... Tu sais, comme moi, je parle au coach de Adam. Son coach, c'est Josh Gregory. Puis j'y parle quasiment tous les jours. Tu sais, lui, il suit ça sur son téléphone. Il suit coup par coup. Fait que je pense que c'est important de garder la communication ouverte. Là, t'sais, s'il y a certains trous qu'on devrait faire ci, on devrait faire ça, si le vent vient d'une certaine direction, whatever, je pense que c'est important de communiquer tout niveau d'information avec, ouais, avec le coach. Donc, moi je prétends pas d'être plus smart que son coach ou le coach prétend pas d'être plus smart que moi non plus. Donc, je pense que ça aide.
Même chose pour moi. Marc, son coach, j'ai aidé Marc beaucoup avec son jeu, mais son coach en chef, c'est Kevin Kirk, là, le coach de Patrick Reed. Et puis... ces gars-là, ils ont tellement confiance en eux qu'ils ne voient pas vraiment comme une menace. Là.
Non, c'est
souvent,
ça.
Souvent, Kevin Kirk me disait, écoute, Johan, aujourd'hui, je veux que tu regardes, on a travaillé certains points techniques, donc regarde ça, là, les genoux, les choses comme ça, juste quelque chose de vraiment spécifique. Puis après la ronde, dis-moi s'il était capable de le faire pendant 18 trous, par exemple. Donc, on échangeait comme ça, mais jamais d'un côté vulnérable ou d'un côté, là encore une fois, comme je mentionnais, là, du volet de la job.
OK. Il y a Mathieu Martel. La question est super bonne. Combien de temps vous pouvez consacrer à prendre des notes lors des rondes de pratique pour préparer le tournoi? En termes de temps, ça représente quoi? J'imagine que c'est différent de golfeur en golfeur. Comment ça marche avec Adam, mettons, Julien?
Bien, c'est tough de prendre beaucoup de notes pendant qu'on joue une ronde de pratique, parce que il y a tellement d'action, là, surtout quand on arrive au vert, les gars, ils frappent des chips, ils frappent des potes. Moi, j'essaie de mettre des tees ou des affaires ronds où les positions de trous sont. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de temps. Donc, c'est plus quand je marche le terrain, je dirais que je prends des notes. Donc, le mardi, mettons, quand on joue, il n'y a pas... pas trop de notes.
Même chose pour moi. Et puis, les yardage books sont tellement bons sur le PGA Tour que c'est ça que Julien parlait, là, les practice cups. Les yardage books sont tellement bons. Et puis, ça dépend aussi. Tu sais, si c'est un terrain que ça fait... Tu sais, si tu parles de Pebble Beach, par exemple, ben, ouais, tu sais, j'ai été là 7 fois. Il n'y a rien qui a changé. C'est sûr, s'il y a des modifications, tu vois souvent des cadets marcher. Ça dépend aussi, est-ce que c'est ta première semaine d'un paquet de tournois en ligne ou si c'est ta troisième semaine, ben le lundi tu voyages, le mardi peut-être une ronde de pratique, à moins que ton joueur soit dans le pro-am. Puis moi, encore une fois, avec Marc, tu sais, après 4-5 trous de ronde de pratique, là, Mark, il n'est jusque-là. Là, tu sais, là.
L'horreur est assez intense quand on y pense. Moi, je compare ça un peu à une saison de baseball là, de 168 matchs où tu voyages le jeudi, là, tu es tout le temps en train de jouer, tu as de la pratique là-dedans, puis un golfeur qui est vraiment, vraiment actif, qui participe à peu près à tous les tournois, mais là, il arrive pour le pro-am des fois, là, il arrive... Fait que, il n'y a pas beaucoup de jours off à partir du kick-off de la saison jusqu'à la fin. Le niveau de fatigue a l'air de quoi? Comment tu fais pour rester comme on puis être là puis tout là mentalement et physiquement?
Le lundi, c'est toujours la journée de congé. Ça, c'est une des choses que les recrues font comme erreur dans le début de leur carrière. Ils sont tellement attirés par l'argent. Il y a tout le temps un pro-am le lundi. Tu vois que c'est tout le temps les recrues qui jouent là-dedans pour faire 1 000$ de plus. Les recrues, souvent, se brûlent comme ça. Et puis aussi, Julien peut en parler aussi, ça dépend du calibre de joueur que tu as. Il y a des joueurs comme Mark, moi, au début de sa carrière, on n'avait pas le choix, on les jouait tous les tournois. T'sais? Adam Long a gagné. Il peut, tu sais, il y a le statut de past champion. Ben, lui, il peut choisir un peu plus où il veut jouer. Tu sais, il y a des luxes que certains joueurs ont. Puis, ceux qui graduent du Corn Ferry Tour, ben, ils n'ont pas le choix de tout jouer jusqu'à temps que tu gagnes ou que tu saches que tu as assez de FedEx points pour l'année d'après, là.
Non, c'est ça.
Ouais, tu peux le voir avec l'attitude un peu des fois. Hein? Quand les gars ils ont joué trop de golf, là, ils deviennent fâchés pas mal rapidement. Là. Fait que, c'est important d'être capable de choisir la cédule, puis prendre des jours off, puis parce que ça devient trop de golf.
Oui, parce que pro comme amateur, on le vit tous. T'sais. Mettons, tu fais un voyage de chum en Arizona. Puis là, t'es là 8 jours, puis là, tu fais jouer 12 games, mais là, généralement, là, la journée avant de partir, avoir une coupe de balles des cactus, tu sais, l'overgolf, c'est vrai chez les pros aussi, dans le fond.
Ouais, absolument.
Surtout, avec la cédule du PGA Tour, là, tu parles, un gars comme Rory McIlroy, mais c'est 5 rondes par semaine. Le pro-am plus les 4 du tournoi. Donc, si tu fais ça 4 semaines en ligne, là, c'est beaucoup de golf. Là.
Question de Marc-André Ménard. Quel est le joueur présentement qui pratique le plus après la ronde? Dans le temps, c'était Vijay Singh avec plus de 1000 balles après chaque ronde.
C'est peut-être encore lui.
Vijay.
Il est incroyable.
Mais est-ce qu'il y en a que vous voyez, mettons, là, Julien, en tournoi, est-ce qu'il y en a que tu vois là, la ronde finir, tourne au range tout de suite puis va frapper des balles?
Sung J.M.
Ah oui? On allait dire les joueurs coréens, là, c'est vraiment... Sung J.M., c'est extraordinaire. Pour avoir été dans son groupe, c'est une machine. Là. Écoute, c'est une machine de golf. Mais il fait que ça. Là.
That's it.
Il y a Michel Pratt qui dit « Qui dans la PGA jase le plus sur le terrain entre les coups avec les autres joueurs et les cadets, à part Johan Benson?
» Ouais, c'est ça, c'est Benson.
Non, mais il y a des joueurs que vous savez que vous pouvez jaser avec, puis il y a-t-il d'autres joueurs que vous savez que, mettons, OK, lui, il ne faut pas que j'y adresse la parole.
Ben, Peter Malnati, il jase à la journée longue. Des joueurs qui ne jasent pas, ça dépend surtout de la façon qu'ils jouent. Il y en a que c'est tellement facile, là. Tu sais, après 2 birdies en ligne, c'est comme comment va ta famille, là, puis. Après un double, c'est comme ça leur dérangerait pas que ta famille conduise en bas d'un cliff. Là. Ouais. Ouais, fait que pour la majorité, c'est pas mal jasant.
Duffner, il parle pas trop, lui.
Non, Duffner, il est drôle en tabarouette, par exemple.
Puis il marche slow en plus. C'est pour ça qu'il veut pas parler à personne, il est en arrière.
OK, il marche loin, Beaver.
Mais juste ses mimiques et ses agissements, là. C'est tordant. C'est vraiment drôle. Là.
Mais tu sais, des fois, il y a des golfeurs qu'on voit à la télé, puis dans leur langage corporel, des fois, je trouve qu'ils n'ont pas l'air sympathiques. Puis je vous donne un exemple, puis vous me donnerez votre feeling. Je ne sais pas si vous avez déjà marché à côté, mais moi, Garcia, je trouve pas qu'il a l'air. Sergio Garcia, je trouve pas qu'il a l'air sympathique sur un terrain de golf. Je trouve qu'il a l'air difficile d'approche. Il y en a. Tu sais, Alex Noren a l'air vraiment, vraiment super funny. Il y en a plein. Pat Cantlay, Patrick Cantlay a l'air vraiment super sympathique. Est-ce que ce qu'on voit à la télé, c'est représentatif de ce que les gars sont réellement, vous pensez?
Ben, pas vraiment, parce que ça dépend aussi. Tu sais, les golfeurs que tu m'as nommés, c'est des golfeurs souvent que tu vas voir à la TV le dimanche. Là.
Ouais.
Quand c'est crunch time et qu'ils sont vraiment en train de bien jouer, là, le gars qui est parti à 7h30 le matin le dimanche, je peux te dire qu'il est jasant.
OK, ouais, ouais, je comprends.
Ouais, Sergio, on a joué avec lui au Japon, puis son frère, il cadait pour lui, Victor, il cadait pour lui, puis le jour avant, il avait fait, il avait donné un mauvais yardage ou quelque chose, fait que les gars, ils n'ont pas parlé de toute la journée, ils n'ont pas dit un mot. Mais Sergio, il parlait à nous, mais il ne parlait pas à son frère, parce qu'il était fâché.
As-tu déjà donné un mauvais yardage, Julien? Moi, ça m'est arrivé une fois à Torrey Pines, le Nord. C'est le 8e trou, c'est le dogleg à gauche, Julien.
Ouais.
Dans le yardage book, j'avais marché le terrain parce que Mark ne joue jamais les deux terrains comme ronde de pratique. Et puis, il y avait trois sprinklers là, dans un... Je te dirais, là, en dedans de 15 verges, mettons, là, il y avait trois sprinklers avec un A dessus. Parce que des fois, Max, quand il n'y a pas un numéro,
ouais,
les Canadiens vont se promener avec un Sharpie argenté, puis ils vont mettre une lettre.
Okay.
Au lieu de mettre le chiffre qui devrait être sa tête, ils mettent une lettre.
Okay.
Bon, fait qu'il y avait, il y en avait trois en ligne qui avaient des A dessus. Et puis, Marc prend tout le temps sa distance et puis la mienne. Et puis, des fois, si on est comme à diverses différences, ben Marc, c'est sûr qu'il ne retournera pas marcher. Fait qu'on fait, on y va dans le milieu. Puis là, les deux, on était off là, de 20 verges à peu près. Puis, il t'a frappé un fait ça. Puis, écoute, la balle montait encore en zapine.
Oui, Julien, tu as déjà donné un mauvais yardage?
Je l'ai pogné moi, au 18 à Tampa, au Valspar. Je l'ai pogné juste avant qu'il a swingé, là, je l'ai pogné, j'étais off par 35 verges. Il aurait frappé à la maison en arrière du green, mais je l'ai arrêté juste avant. Donc, non, pas de...
OK.
Pas de mauvais chiffre terrible, là, à date, là.
Quand même. J'ai une question par rapport aux jeunes golfeurs qui arrivent sur le tour de la PGA, puis je vous donne un exemple de la NHL, puis vous allez comprendre. Un gars que je connais a fait le camp des Sharks de San Jose. Invité au camp, puis il m'a mené dans la pratique, dans un 2 contre 0, il se ramasse avec Joe Thornton. Et il fait pas la passe à Thornton, puis c'est lui qui prend la shot au net. Thornton va le voir et dit « Hey kid, when we get to the net, I'm shooting the puck. » Quand un jeune golfeur arrive sur le tour de la PGA, arrive dans l'univers des tournois, comment ça se passe avec les plus vieux? Est-ce qu'il est bien accueilli? Est-ce que c'est un univers qui est welcoming, est-ce que c'est à bras ouverts? Comment ça se passe pour genre HK Batia, ces jeunes-là?
Moi, j'ai jamais vécu de situation d'intimidation où j'ai rien vécu sauf des belles histoires avec Mark, que ce soit avec Mark ou avec Russell. Même que les plus vieux sont très généreux de leur temps. Russell, évidemment, il habite tout près du TPC Sawgrass, donc il voit VJ souvent, il voit Jim Furyk souvent. Je ne sais pas pour Julien, moi, j'ai jamais vécu, là, honnêtement, de situation d'intimidation ou de big time. Là.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme il y a un système genre, tu sais, comme Adam Long, ben, il a joué sur le Corn Ferry pendant 5 ans, donc il connaît déjà beaucoup de gars sur le tour. Il est allé à l'université à Duke, donc il est comme frère avec Kevin Streelman déjà, puis les autres gars qui sont allés à Duke. Puis il y a des gars qui ont tous les mêmes coachs, donc ils sont déjà en connaissance avec d'autres joueurs. Fait que je pense que c'est rare qu'un gars arrive sur le tour et il ne connaît pas personne. Fait que,
à moins que la recrue fasse quelque chose là, de pas correct, là, le vétéran va dire hey, « la prochaine fois, fais pas ça », mais moi, j'ai jamais vu que ça.
Oui, parce que ça vient avec beaucoup de pression. T'sais, j'étais à Vegas l'été passé, puis je suis allé aux Shriners, puis on a suivi HK Batia pendant quelques trous. Là, il y a son coach, Jake Gilmer, qui le suit, qui est dans comme l'environnement de Gankus. Il y a un autre gars de Gankus. Il y a la sœur de Batia, il y a la famille, il y a tout le monde. Puis Batia, à ce moment-là, 17 ans, je me dis, « Hey, Et ça doit être beaucoup, beaucoup de pression arriver dans cette enceinte-là où là, sur ton pairing, t'as Cantley, tu sais, c'est quand même. Peut-être que ça a l'air plus gros pour nous, les amateurs, parce qu'on le voit à la télé, puis comme vous dites, ils ont passé par le Corn Ferry, par d'autres circuits avant. Mais, tu sais, c'est gros. Il y a beaucoup d'aura de golfeurs qui sont plus grands que nature, puis là, tu viens qu'à les croiser. C'est spécial quand même comme environnement. Là.
Absolument. Pour nous, Mark a quand même une grosse famille. Et puis, c'est arrivé souvent. Écoute, Mark Hubbard, là, c'est pas un nom comme Graham Delette, par exemple, ou Russell Knox. C'est arrivé souvent que les seules personnes qui nous suivent, c'est la famille de Mark.
La famille.
Donc, côté pression, je pense pas. Là, tu sais, Mark, il aime ça jouer devant sa famille. C'est sûr que quand ta famille est présente, par exemple, à moins que ce soit une famille très unie, tu sais, serrée, que tout le temps, tout fait ensemble, là, Mark, c'est une famille un peu plus éparpillée. Là, il y a eu des divorces, des affaires comme ça avec ses parents. Mark, souvent, il trouvait ça fatigant parce que faut que tu ailles super avec un, faut que tu ailles super avec l'autre. Tu sais, de t'attirer d'un bord puis de l'autre. Mais tu sais, Julien, ouais. Toi avec Graham, peut-être vous aviez des plus grosses foules là, que nous autres on a eu là, en tout cas là.
Ben avec Graham, c'était sur la côte ouest là, les
Canadiens.
Chandails verts des Saskatchewan Riders là.
Wow.
À Palm Springs.
À Palm
Springs.
Ah, c'est incroyable.
Il y en avait une centaine de chandails verts Rough Riders. C'était incroyable. Go Riders, go Riders. Puis your Graham, il ne suit même pas les Riders, tu sais.
Ouais, mais c'est parce que personne ne suit les Rough Riders. Il n'y a pas juste Graham. Il n'y a pas. Quand tu vois dans le calendrier de la CFL, tu fais suivre. Il y a une équipe là-bas. Question de Martin Charles du Golf Château Bromont que je salue. Quel est votre moment le plus mémorable en tant que caddie, votre plus beau moment de caddie?
Il y en a plusieurs. Écoute, les fois que tu joues avec Tiger, avec Phil, les tournois majeurs. Je te dirais mon plus beau moment, moi, c'est quand Marc a. Ça n'a même pas rapport sur le PGA Tour, c'était. C'était les playoffs du web.com dans le temps, maintenant le Corn Ferry. C'était à Columbus, le Scarlet Course, quand Mark a terminé quatrième pour sécuriser sa carte. Il avait, donc 2015, c'était son année recrue. Il a perdu sa carte. On est retourné au Corn Ferry Playoffs. Et puis, le troisième tournoi de quatre playoffs, il a fini quatrième pour avoir son laissé-passer pour l'année 2016. Écoute, les deux, on était en larmes parce qu'on a eu la chienne en tabarouette là, de ne pas rejouer. Un coup que tu goûtes au PGA Tour, là, c'est dur en tabarouette de débarquer. Là.
Ah, ça serait, c'est sûr. Julien, toi, ton plus beau moment?
Ça doit être la President's Cup, la Coupe des présidents. Ah. 2013, on jouait avec Jason Day contre Keegan Bradley puis Phil Mickelson. Puis Graham, il a fait un chip au 18. Il l'a mis dedans pour forcer une égalité. Là. Keegan, il y avait un putt après pour égaliser le match. Puis il l'a fait le putt. Mais quand Graham, il a mis son chip dedans, là, c'était incroyable. C'était écœurant. Hein, juste les frissons, juste à y penser, là, c'était une scène très, très mémorable.
Yoann, t'as dit quoi d'intéressant tantôt? T'as dit quand on joue avec des grands noms comme Phil, comme Tiger, est-ce qu'il y a des règles non écrites? Mettons, un caddie, peux-tu demander une photo à Tiger Woods? Est-ce que, tu sais, ça peut-tu arriver? T'es impressionné, c'est ton joueur préféré. Ça se fait-tu d'aller voir Phil Mickelson et dire « Hey Phil, you know, I like you a lot, can I have a picture? » Est-ce que ça se fait, ça, ou c'est comme proscrit? Mais...
Ben, moi, je l'ai pas fait parce que j'ai été chanceux dans ma carrière avant d'être cadet. J'ai participé au US Open en 2008. Donc, ouais. Lorsque j'ai joué le US Open, j'ai laissé un drapeau là, dans le locker room des joueurs et puis tous les joueurs l'ont signé.
Oh, wow.
Donc, j'ai déjà leur signature. C'est sûr que j'aimerais ça avoir une photo avec Tiger, là, mais non, j'étais... Étant pas gêné de nature, ça, c'est disons que c'est une clôture que j'aimerais pas franchir. Je veux pas être le gars qui a été demandé de prendre une photo, là.
Parce que ça arrive pas, ouais. Là,
Ça arrive pour les joueurs, mais pas vraiment les cadets. Là.
OK. Ouais, les joueurs, entre eux autres, peuvent, mettons, un gars qui arrive sur le tour demander à Phil ou peu importe, ou à Tiger, de, une question.
Ouais, puis il donne ça à charité ou whatever.
Ouais. Ouais, absolument. Il y a Jonathan Gagnon qui demande comment va Graham DeLate. Il a été blessé. Est-ce qu'il joue encore dans le but de revenir sur le PGA Tour? Moi, je l'ai vu l'été passé à Vegas aux Shriners, mais il va comment, Graham?
Ben, son dos, là, il essaie de guérir son dos. Il a joué, quoi, 3 tournois là, en automne, puis il a joué à Hawaii au mois de janvier. Puis après, ben, il a eu de la misère un peu. Il a essayé de jouer à Torrey Pines, mais il continue à faire des traitements, puis tout ça. Puis son mental, il est bien, là. Il est au Idaho avec sa famille, il a des jumeaux. Puis on y parle souvent, là. Ma femme et moi, on est c'est des bons amis, mais j'imagine que, mec, la cédule reprenne, là. Espérons qu'il va être en bonne shape, puis il va être capable de jouer, là.
Moi, je l'ai interviewé justement là, pour ma petite série d'épisodes. Là.
Ouais, on va en parler un peu, justement.
Je l'ai interviewé il y a quelques jours et puis il allait très bien. C'est sûr que c'est difficile d'avoir des traitements, évidemment, que tout est fermé. Là. Ouais. Donc, il est pas mal équipé chez lui. Avec, il y a des choses pour se traiter lui-même. Mais comme Julien a dit, il est tout le temps en excellente condition physique.
Ah ouais.
Et mentalement, il est prêt. Mais il est pas. Il va prendre son temps, il va bien faire les choses, puis il reviendra pas trop vite parce que c'est pas nécessaire dans son cas.
Là. OK, ouais, je comprends. Parlons-en, Johan, justement, tu as lancé une série d'entrevues avec des golfeurs. Ou est-ce que c'est des pros qui parlent avec des pros? Puis. C'est cool, c'est vraiment le fun, le résultat est super bon. Tu as déjà parlé à Russell Knox, à Mike Weir. Là, il y en a quelques-unes de sorties, puis les autres vont sortir bientôt, je pense.
J'en ai publié 4. Julien, tu n'as pas été interviewé encore, mais tu es sur ma liste, donc ça s'en vient, tu vas avoir un appel. J'ai eu des cadets, j'ai eu Kurt Kowalak, que Julien connaît très bien. J'ai eu Ted Scott qui cadé pour Bubba Watson.
Ouais, cool.
Donc, j'ai environ une vingtaine là, d'interviews de faits. C'est une idée qui m'est venue. C'est Marc et moi là, qu'on en est venu à l'idée vendredi passé. On a pris quelques verres en FaceTimant. Donc, on en est venu à l'idée d'essayer de faire ça. Moi, j'ai fait ça seulement pour le plaisir. Et puis, ça a pris des tournures. Ça a pris une envergure que, évidemment, j'avais pas envisagé. Donc, j'en ai publié 4 et puis je vais arrêter d'en publier pour l'instant parce que ça a tellement rejoint de gens que je veux faire les choses de la bonne manière.
Oui, c'est la bonne
et
chose.
Puis, c'est ça. Et puis, je veux avoir... écoute, c'est juste moi et un ordinateur. Puis disons que je ne suis pas calé en ordinateur. Là. Donc, je veux avoir une équipe derrière moi pour bien faire les choses pour... Comme toi, tu fais, Max, d'ailleurs, là, j'aimerais ça que ce soit bien fait et puis pouvoir les partager au plus grand nombre de gens possible au lieu que ce soit ma mère puis mes tantes qui voient mes vidéos, mais j'aimerais ça que tout le monde puisse les voir. Là.
Mais tu sais, le plus de contenu de golf il va avoir, le mieux ça va être pour le sport. Les gars, une dernière question du public avant de vous laisser aller. Danny Fournier qui demande, selon vous, qui a les coups de fer les plus purs ou les plus solides sur le tour?
Ben, Tiger. Ben,
écoute, Tiger, ouais, c'est ça. Mais à part de Tiger, ça, je pensais que je voyais la question. Là. Pour moi, c'est Rory McIlroy ou s'il est blessé, ben, je vais prendre Sergio Garcia, peut-être.
Ah oui.
Au Shriners, l'été passé, on a suivi, j'ai suivi plein de golfeurs, justement, et j'ai marché pendant 4-5 trous à côté de Brooks Koepka. Le son que ça fait quand le fer 4 de Koepka rentre dans le sol, là,
c'est un animal.
Quand moi, je frappe la balle, c'est ça que je comprends. Moi, ça ne fait pas ce son-là.
C'est un animal. Puis Brooks, il... en tout cas, moi, je l'ai côtoyé, puis son cadet, écoute, Ricky, c'est un Irlandais, il est tellement drôle. Brooks, souvent, il va avoir un peu la réputation d'être arrogant, puis tout ça, puis écoute, ça peut pas être plus le contraire. Là. Il est tellement gentil, mais c'est un animal, c'est une force, une brute.
Ouais.
Vraiment extraordinaire. Mais moi, de mon côté, Sergio, excellent choix. Rory aussi. Sergio, c'est de la façon qu'il travaille la balle des deux côtés sans aucun effort. Mais Tiger, c'est juste... C'est un son, c'est un autre son. Là.
Greatest of all time, c'est pour ça qu'on l'appelle le GOAT. les gars, la saison va recommencer dans pas long. Julien, tu vas retourner sur le tour, évidemment, début du mois de juin. Je te souhaite la meilleure des chances avec Adam sur le tour. Johan, évidemment, on va te voir à la télévision quand tout ça va reprendre. En terminant, on surveille qui cette année? Qui pourrait nous surprendre? Qui va gagner des tournois? Est-ce que Tiger gagne un majeur cette année? Est-ce que c'est l'année de Rory? Vous imaginez quoi du golf professionnel cette année?
Tiger, ouais, c'est ça. Ben, on va voir. On espère que la cédule va rester. Là. Je dirais que Tiger, oui. Je vais vous donner un nom. C'est une recrue, mais j'ai cadé pour un gars qui s'appelle Scotty Scheffler il y a deux ans. Hey, c'est incroyable, golfeur, lui. Incroyable. Puis à part de ça, ben Adam Long, on va probablement gagner.
Oh, on prend Adam Long.
Absolument. Ben, c'est le fun de. C'est le fun que les gens puissent maintenant savoir pour qui Julien Cadé, parce que ça leur donne une. Au moins, ça leur donne quelqu'un pour qui être partisan maintenant. Tiger, on espère que son retour va être bien parce que depuis Riviera, là, il n'a pas participé à aucun tournoi. Il a encore des maux de dos, des choses comme ça. D'après moi, il va être en grande forme, mais j'aimerais beaucoup que Rory gagne le Masters là, pour compléter le grand chelem.
Absolument. Johan Benson, Julien Trudeau, merci beaucoup les gars d'avoir pris du temps. C'était vraiment cool. Johan était du côté de Chicago et Julien du côté du Kentucky. Donc, vraiment cool de vous avoir par la magie d'Internet ce matin. Puis, c'était cool les gars. Merci, on l'apprécie. Bonne saison. Puis, évidemment, on va se croiser bientôt.
Merci beaucoup.
Salut. Bye-bye. C'était Johan Benson et Julien Trudeau. C'était super intéressant. Merci d'avoir été là. Plus de... Il y a du monde dans ce show-là. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à Danny Fournier. Merci à Alain Dano. À Alain Dano du club de golf de Victoriaville que je salue. Salut à Yves Tremblay également. Là, j'essaie de lire tous tes commentaires. Martin Lefebvre, c'est full. Merci les boys. Sarah Landry, salut Sarah. Merci pour cette entrevue. Toujours le fun de vous écouter. Junior Junot du club de golf Saint-Prime au lac Saint-Jean. Oui, j'essaie de mettre Junior depuis tantôt. Bon, Junior Junot, très bonne émission. Je salue du côté du lac. Les gens au lac Saint-Jean, une région que j'adore. Je vous salue. Vous avez hâte de jouer au golf. On le sait. Merci d'avoir été là. David Skitt qui dit awesome. Salut David. Vincent Blanchette qui l'an passé a le record lors d'un tournoi professionnel avec une ronde de 60. Vincent Blanchette a joué un 60 l'année passée. Il aurait pu te forcer jouer au moins 59, rentrer dans le 59 Club. Mais tu sais. Vincent, qui est un ancien joueur de la Ligue de hockey, joueur majeur du Québec, un gars tellement sympathique. Pierre Picard qui dit « Merci, excellente émission, très intéressant. » Nadia Dimena du club de golf Le Versant. Je suis sur la terrasse du Versant présentement, mon home club. Nadia qui dit merci Max, merci Nadia. Dominique Tremblay, là j'essaie de suivre tout le monde. Malon Demers qui dit merci, super émission. Sly Dufresne du club de golf de l'île de Montréal qui est là. Salut Sly, merci d'être là. Et oui, demain super intéressant parce que là, on le fait aujourd'hui, on recommence demain, on recommence en fin de semaine prochaine. Mais demain, on s'en va en Floride, on s'en va rejoindre Chip Beck. Demain, Chip Beck, Mr. 59, il a déjà joué 59 dans un tournoi professionnel. En 1993, il a terminé deuxième au Masters. Imaginez, là, le plus grand tournoi de golf ever, tu termines deuxième. C'est sûr que on se rappelle souvent de ceux qui l'ont gagné, mais c'est un exploit exceptionnel. J'ai hâte de parler à Chip Beck, qui a une longue et belle carrière dans le golf, donc ça va se passer demain. Écoute, il y a tellement de commentaires, j'essaie de tout lire. Guillaume Levert qui dit « Très intéressant, les boys, merci. » Anthony Levasseur qui dit « Très intéressant de voir les Québécois sur le tour. » Alors, ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là, merci d'avoir pris du temps, merci d'avoir partagé. Si vous ne l'avez pas fait encore, on vous invite évidemment à prendre cette entrevue-là, la partager, la mettre sur votre Facebook, dire au monde, à votre entourage, qu'il y en a un autre demain avec Chip Beck. Ce qu'on veut créer avec une tasse de thé, avec Max Lalonde, c'est une habitude comme ça, les matins de fin de semaine, en attendant que la saison commence. Je vous l'ai dit tantôt, je veux saluer les gens de la table de concertation de l'industrie du golf du Québec qui ont eu cette initiative-là de créer du contenu pour vous autres, de vous amener un contenu de golf, de faire en sorte qu'on jase de golf, qu'on se prépare pour la saison. Je veux parler aux gens de Sortez Golfer aussi. Cette campagne-là, Sortez Golfer, évidemment, il y en aura une cet été avec une formule différente qu'on a hâte de vous présenter. Mais ce qui est cool, c'est votre engagement. Les photos que vous nous avez envoyées, les vidéos que vous nous avez envoyées, vos setups de cours avec des bâches, puis des toiles bleues, puis des tuyaux pour vous faire des driving range, des champs de pratique à la maison. C'est tellement cool. Merci. Et en terminant, les golfeurs, les gens qui jouent au golf, là, les malades de golf comme moi, là, les 50, 60, 70 games par année, là, je vous donne une mission cette année pour rendre service à quelqu'un, pour rendre service à un golfeur ou à une golfeuse, ou pour rendre service à un ami, faites-lui découvrir le golf. Et pour saluer et aider et donner un coup de chapeau au terrain de golf que vous aimez, faites-leur découvrir un terrain de golf, faites-leur découvrir le sport. Si vous avez un ami que vous savez qui joue 4, 5, 6 games par année, qui a des bâtons dans son sol, qui ne joue pas souvent, qui vous a déjà dit, Manu, dans un souper, hey, j'aimerais ça jouer tel terrain, mais prenez-le, ramassez-le par le collet un matin, un dimanche, un après-midi, amenez-le jouer un 18, amenez-le jouer un 9, mais amenez vos amis jouer au golf. C'est votre sport préféré, c'est mon sport préféré. On aime ça, on aime ce sport-là d'un amour inconditionnel et pour que ce sport-là perdure, pour que la bonne nouvelle se propage et que tout le monde ait autant envie de jouer au golf que vous autres puis moi. Faut qu'on en parle, faut qu'on en soit des passionnés, faut qu'on en soit des porte-parole, et c'est la mission que je vais vous donner cet été, de prendre quelqu'un par la main, par le collet, puis de l'amener au terrain de golf, puis de faire en sorte de passer des beaux moments. Puis je leur ai dit, si cette personne-là débute, pas de carte de pointage, vous embarquez sur le terrain, vous frappez la balle, vous avez du plaisir, vous prenez des photos, vous gardez des souvenirs de ça. On se retrouve demain à compter de 9h, mon invité demain, live de la Floride. On va parler à Monsieur Chip Beck. Merci beaucoup. C'était Une tasse de thé avec Max Lalonde, édition numéro 1. On se reprend demain. Salut tout le monde. Bye bye.